en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui le peintre Arnaud d'Autrive, qui a été élu le 13 juin 1984 à l'Académie des Beaux-Arts, académie qu'il a présidée en 1987, 91 et 96, et dont il a été élu secrétaire perpétuel le 2 octobre 1996, il y a donc près de 16 ans désormais. Arnaud d'Autrive, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités, sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Arnaud d'Autrive, le moment essentiel ?
Alors je dois l'avouer que pour moi l'élément, j'allais dire essentiel, a été l'obtention donc du Grand Prix de Rome. Je l'ai obtenu donc à un âge, j'allais dire, relativement jeune.
J'avais donc 22 ans, non, c'est ça ?
22 ou 23 ans, oui. Ça, oui. Pardon, veuillez m'excuser, oui, je ne me souviens même plus. Et c'était extrêmement important, car ne l'oublions pas, le contexte d'une, j'allais dire, d'un artiste, du moins d'un supposé artiste à l'époque, avant que je ne sois pris de Rome, était souvent une vie difficile. Et moi-même, je dois le dire, sans vouloir être ostentatoire, je payais mes études en étant balayeur au bazar de l'hôtel de ville. Je me levais tous les jours à 3h30 du matin, jusqu'à 9h, je balayais le bazar de l'hôtel de ville, et ensuite je prenais mes cours à l'école des Beaux-Arts.
C'est curieux de passer du balai au pinceau.
Alors excusez-moi, ça paraît un peu folklorique.
Non, non.
Alors j'ai eu cette chance, c'est d'avoir le rhum, j'allais dire, du premier coup. Donc je suis resté très peu de temps à l'école supérieure des Beaux-Arts, c'est-à-dire un peu plus d'un an.
Et
donc
ensuite,
je suis parti pour Rome.
4 ans, hein, à la Villa Médicis.
Alors je suis resté, c'était 3 ans et demi, mais nous avions la faculté de rester, si nous le souhaitions, un peu plus longtemps. Ce qui a fait que, après avoir reçu, j'allais dire, Balthus, qui succédait à un autre directeur que j'ai beaucoup apprécié, qui était le compositeur Jacques Ibert, que j'ai eu la faculté de pouvoir rester, j'allais dire, 6 mois de plus.
Alors vous êtes resté donc 4 ans à Rome, mais
oui.
Vous êtes ensuite allé à Madrid, à la Casa Velázquez.
Oui, je suis un récidiviste.
Oui, récidiviste, et en 64, la Casa Velázquez.
Voilà.
Et
qu'est-ce
qui vous a le plus marqué, la peinture italienne ou la peinture espagnole ?
Alors, je vais vous faire un aveu, j'ai beaucoup aimé mon séjour à Rome. C'était une découverte exceptionnelle. Ne l'oublions pas, il avait fallu la guerre de 40, la dernière guerre, pour que je franchisse la Loire. Je suis un homme, comme je dirais, sans vouloir faire un calembour déplacé, je suis du bas de l'Aisne, du département de l'Aisne. Et à cette époque-là, les familles campagnardes, eh bien, passaient leurs vacances, j'allais dire, en famille, entre cousins, cousines, on se retrouvait tous. Et je n'avais vu ma mère, qui était Perros Guirec, et Carole, dans la baie du Mont-Saint-Michel, avant donc cet exode. Donc l'exode m'a permis de franchir la Loire, et nous nous sommes réfugiés à l'époque en Corrèze, dans un lieu bien connu qui était Meymac, qui était donc le fief de M. Chirac.
Donc là, découvrir
voilà,
Rome...
Voilà, excusez-moi, bon...
Découvrir Rome après, c'est quand même...
Alors découvrir Rome était quelque chose d'extraordinaire. D'abord cette lumière, qui m'avait totalement surpris. J'avais donc ma vision, je veux dire, des lumières du Nord, qui sont parmi, par mon avis, les plus belles, mais j'ai découvert également celles du Sud. Alors, l'esprit italien est un esprit qui m'a beaucoup plu. Mais si vous voulez, avec l'Espagne, j'ai découvert une expression peut-être davantage en profondeur, moins épidermique.
Plus l'âme que l'œil, quoi.
Oui, c'est plus l'âme, oui. Alors, est-ce mes ascendances parce que ma grand-mère américaine était donc d'origine andalouse. Bon, elle avait donc un caractère très marqué de ces Espagnols du Sud. En plus, mon arrière-grand-mère était de Rennes, c'est-à-dire l'Andalousie profonde, et Jerez, également de la Frontera. Parce que mon grand-père, toute notre famille, est d'origine louisianaise.
L'origine première, si j'ai bien compris, c'est la Drôme.
C'est Autrive,
oui, c'est
là
ça.
Où le facteur cheval a construit cette construction qui s'appelle le Palais Idéal.
Et c'est votre père qui a choisi la nationalité française en 1913.
Oui, en 1913, effectivement. Oui. Parce que mon père est né de parents donc américains en France. Et alors, il a eu le droit d'opter, à l'époque, pour la nationalité française. Donc, nous sommes redevenus français. Nous avions perdu la nationalité française en 1803, lors de la vente de la Louisiane par Napoléon. Et pendant plus d'un siècle, nous étions donc, j'allais dire, sudistes.
Et pour lui, choisir la nationalité française, ça n'était pas un vain mot, puisque il a fait le chemin des dames, quand même. 1917,
alors, il a fait le chemin des dames et la Somme. Le 16 avril 17, justement, dans cette région où il est revenu, la guerre achevée, et où il a connu maman.
Alors, il vous a expliqué pourquoi il avait choisi la nationalité française.
Et mon arrière-grand-mère américaine était irlandaise. Donc, vous voyez, c'était déjà le melting pot avant...
Mais il vous a expliqué pourquoi il avait choisi la nationalité française, votre père, un jour ?
Je ne sais pas, non, il n'est pas parce que mon père est mort donc accidentellement, nous avions beaucoup de contacts, mais effectivement, il n'en a jamais pas parlé, il n'a jamais donc exprimé sa motivation. Mon grand-père américain adorait la France. Et je pense qu'il aurait pris la nationalité donc française.
Alors, vous parlez de la lumière donc de Rome. Il y a beaucoup de lumière dans vos tableaux, en particulier dans les tableaux de femmes. Mais ce qui est très curieux lorsqu'on regarde vos personnages de femmes, ce ne sont pas des saintes Nitouches.
Hein, non. Non, c'est certain. Ce sont des femmes dans le sens où l'on peut, j'allais dire, rêver, donc où la féminité est exprimée, où ce sont des personnages très présents.
Mais le tableau qui me touche le plus, moi, concernant donc, les portraits de femmes, c'est un tableau qui s'appelle La Devinette. C'est une femme nue, assise, bras croisés. On ne voit pas sa tête. Alors, La Devinette, c'est par rapport à la tête ou c'est autre chose ?
C'est par rapport à la tête.
C'est par rapport à la tête.
Oui, c'était un très beau modèle et qui a eu, j'allais dire, pas le modèle, mais le tableau a eu une fin tragique car il a été acheté par une personne donc de la Nouvelle-Orléans. Et ce tableau a été détruit dans Katrina.
Oh là là.
On l'a retrouvé une quinzaine de jours après, complètement éventré. Et alors maintenant, c'est-à-dire les propriétaires l'ont gardé, et donc il est encadré dans son état avec le souvenir de Katrina.
Vous savez à quoi il me fait penser ? Moi, il me fait penser à Courbet.
Mais écoutez...
Vous y avez pensé, vous ?
Non. Non, mais ce n'est pas...
Ce n'est pas un mauvais lien.
Je veux dire, d'autant que j'apprécie beaucoup Courbet.
Alors, quand on regarde votre itinéraire, on s'aperçoit que non seulement vous avez fait une brillante carrière, mais vous avez presque toujours été un indépendant total. Vous.
Ah oui.
Vous n'êtes pas attaché à un courant, pas d'école, pas de système.
Non. D'abord, ce que j'adore, c'est la liberté. Et je pense que mon père, pour lui, peut-être, allons-nous revenir sur les raisons pour lesquelles il avait choisi, c'est ce goût de la liberté que nous avons tous dans ma famille, que ce soit mon frère Landry, que ce soit ma sœur Chantal, qui a épousé un peintre, j'allais dire connu, qui est brésilien. Nous avons été toujours très amoureux d'une liberté. Et d'ailleurs, mon père nous avait élevés, donc comme il disait à la manière américaine, c'est-à-dire qu'il nous plaçait devant nos propres responsabilités. C'était à nous, et cela, ça a été fortifié par mon passage chez les jésuites.
Et vous restez marqué par cette influence jésuite ?
C'est certainement, dans ma jeunesse, un des souvenirs les plus beaux et où j'ai rencontré des hommes extraordinaires.
En tant que forme d'esprit, qu'est-ce qu'ils vous ont le plus apporté, les jésuites ?
Alors, il y avait
le sens de la complexité des choses.
Oui, mais alors, une finesse en même temps de sentiments et ce que j'apprécie beaucoup dans ces êtres, c'était la rigueur. Et je dirais que c'est la qualité que j'apprécie le plus, la rigueur.
Liée à l'intelligence aussi.
Voilà, l'exigence, voilà.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité donc aujourd'hui, la peinture, Arnaud Dautrive ? Qu'est-ce que vous aimeriez souligner sur ce domaine d'activité aujourd'hui qui vous paraît essentiel ? Si vous aviez une chose à dire sur le fait d'être peintre aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire ?
Je vais vous dire... Personnellement, je pense que tout artiste a subi à toute époque, j'allais dire, les affres de la création. Mais je pense que nous vivons une époque vraiment de trouble général. Ou si vous voulez, avant, il y avait plus ou moins des références, il y avait des règles. Bon, je ne suis pas du tout un passéiste attaché à une certaine pratique de la peinture. Mais
votre peinture le montre.
Oui, alors je suis attaché au métier, mais en même temps je suis très libre, je peins comme je le ressens, et bon, en tout cas avec, je pense également, une parfaite sincérité. Mais je dois le dire que l'interrogation quotidien que je me pose concernant la création artistique à l'heure présente, j'ai beaucoup de mal.
Mais qu'est-ce qui fait pour vous la différence alors, dans les situations aujourd'hui sur ce plan-là
par rapport à ce qui se passait avant ? Il y a une chose qui est merveilleuse. Bon, c'est qu'en fin de compte, maintenant, tout le monde peut se prétendre peintre.
Vous trouvez ça merveilleux, vous ?
Ça sent la liberté, toujours, goût de la liberté. Certes. Mais avec toutes les règles que vous connaissez qui ne sont pas forcément parmi les meilleures.
Oui. Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus alors, dans cette situation de la création artistique aujourd'hui ? C'est la place de l'argent
La place de l'argent.
Oui, c'est ça.
La place de l'argent, le désir de paraître, le désir d'être reconnu. Moi, je l'avoue, je n'ai jamais eu le fétichisme de mon œuvre. Ça ne m'intéresse pas.
Vous voulez dire qu'une fois que vous avez réalisé une œuvre, le destin de l'œuvre...
Oui, la seule chose qui m'intéresse, c'est le combat. C'est lorsque je peins. Le reste, ce que devient l'œuvre, bon... Naturellement, c'est un petit peu comme une fille, quand elle se lance dans la vie et qu'elle découvre un homme, elle va naturellement faire en sorte qu'il y ait cette liaison. Mais si vous voulez, je n'ai pas du tout, donc je dis, ce fétichisme et ce besoin d'être reconnu comme un bon ou un mauvais artiste, ceci ne m'importe absolument pas.
Mais quand vous parlez de combat, est-ce que vous le ressentez comme ont pu le ressentir des gens comme Van Gogh et des tas d'autres, c'est-à-dire comme un combat à la vie, à la mort ?
Non.
C'est pas du tout, non ?
En fin de compte, non, je m'aperçois. Non. Parce que vous savez, en fin de compte, je suis arrivé, je suis artiste, ce sont des aveux redoutables, par accident. Car je préparais une carrière de pilote de chasse.
C'est ça, oui. Et... Je veux dire que vous aviez été à bonne école, hein. Je veux dire, pendant la guerre, la propriété de Brenne, vous avez vu les avions de la défaite, les avions de la victoire.
J'avais un cousin qui était dans les forces françaises libres du groupe Lorraine. Bon, j'ai connu Klostermann, j'ai connu donc pas mal pendant ma jeunesse, et j'ai fait donc mes premiers vols à Reims, d'où j'allais commencer avec le planeur.
Vous faisiez du planeur, exactement.
Voilà.
Je crois que c'est un petit problème physique qui vous a empêché.
Alors c'est un problème, ou un petit problème d'ordre cardiaque à l'époque, une faiblesse. J'étais de cette génération qui a poussé comme les asperges pendant la guerre, et il y avait une petite fatigue physique. Et c'est ma maman qui, connaissant donc mes goûts pour ce qui n'était même pas la peinture, c'était les dessins, et c'était un des rares prix que j'avais obtenu étant à l'école. C'était les prix de dessin. J'ai toujours eu le prix de dessin. Et histoire, géographie, sciences naturelles, j'avais que des matières, ou la poésie, effectivement, qui me proposaient une véritable évasion. Les sciences exactes, en fin de compte, n'étaient pas mon fort, ce qui était un tort peut-être pour l'aviation.
Donc, grâce à votre mère, vous êtes rentré à l'École des Beaux-Arts de Reims.
Voilà.
Puis vous êtes monté à Paris.
Et alors, ensuite, j'ai obtenu donc un diplôme qui me permettait de rentrer directement, donc, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts.
Et là, c'est allé très vite, donc, puisque le Grand Prix de Rome, Villa Médicis...
Alors, j'ai eu le Prix de Rome, et c'est en arrivant à Rome que d'un seul coup, face, si nous revenons en arrière à ce dont nous parlions tout à l'heure, que découvrant la lumière de Rome, j'ai basculé dans la non-figuration. Donc, j'ai été le premier Prix de Rome non-figuratif. Ce qui fait qu'à l'époque, j'avais été totalement condamné par l'Académie. Puisque le prix de Rome était décerné en grande partie par des académiciens.
Mais alors l'Espagne, revenons à l'Espagne. Alors,
L'Espagne, je me suis senti plus proche de l'Espagne dans le sens où, je vous dis, il y a cette rigueur, il y a en même temps ce mystère très interne de l'Espagne. L'italien se révèle par quelque chose de sympathique, d'enjoué, d'amusant. L'espagnol est un personnage, je dirais, beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Il y a un drame qu'on ne ressent pas dans l'Italie.
Ce sont des peintres comme Zurbaran
Oui, c'est un de mes peintres préférés, Velázquez, Zurbaran. D'ailleurs...
Goya, le Greco, peintre...
Voilà.
Oui, c'est ça.
Mais Zurbaran est certainement un des plus beaux peintres.
Oui. Et l'un des moins connus, d'ailleurs, je veux dire.
Oui, j'allais dire, je m'en moque totalement.
Et quand nous disions « ça parle à l'âme », mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette peinture, sur ce plan-là ?
Ce qu'il y a, dont je trouve, dans l'Espagne, c'est la vie et la mort.
Ouais, c'est ça.
En fin de compte, je suis non pas obsédé par la mort, par la vie. D'ailleurs, sur le fourreau de mon épée figure le signe de pique et le cœur. Le pique, c'est donc la mort également. J'ai cette, non pas obsession de la mort... pas dans le sens négatif, mais dans ce que cette mouvance apporte à la personnalité.
Mais est-ce que vous reprenez dans l'esprit espagnol, enfin, je pense à ce livre merveilleux de Miguel de Unamuno, Le sentiment tragique de la vie, vous avez cette vision tragique des choses ou pas ? Parce que non. apparemment.
Eh bien,
non.
Je vais vous faire un aveu.
Vous êtes un hédoniste, vous n'êtes pas un...
Oui, mais en dehors de cela, je dois dire que, si on me dit, qu'est-ce qui vous a frappé, qui a enfin conformé votre personnalité ? Eh bien, c'est la guerre. L'événement, c'est de la guerre que tout est parti.
Et c'était votre enfance ?
C'était mon enfance. Et je m'aperçois que tous les souvenirs que je gagne sont des souvenirs d'enfance.
Mais en plus, vous aviez une enfance curieuse. Vous étiez dans une très belle propriété, en famille.
Une propriété, oui, de famille.
Mais avec cette chose très curieuse, c'est le grenier.
Oui.
Tout ce qu'on m'a raconté sur votre
grenier.
Mais je vois
que vous connaissez bien.
Non, mais c'est étonnant, votre grenier.
Oui. Alors j'ai vécu...
C'est votre caverne d'Ali Baba.
J'allais dire quasi des années.
Vous creusez des rêves.
Ce n'était pas le côté grand monde. Oui. Mais je me souviens, nous vivions dans ce grenier où se trouvaient entassés plusieurs générations de souvenirs, de portraits, de parents. Et il y avait donc, entre autres, un énorme grand-duc qui servait pour attirer, vous savez, les petits oiseaux.
Oui, c'est ça. Hmm?
Et alors on tirait, il y avait une sorte de tirette, et le grand-duc ouvrait ses ailes. Alors il avait des yeux oranges, tout ça nous impressionnait beaucoup. Alors nous avions créé un monde dans ce grenier.
Oui. Donc vous avez vécu, votre enfance était dans la familiarité du mystère,
voilà,
que l'on retrouve dans vos tableaux.
J'ai toujours été... très pudique sur ce que sont mes sentiments. Bon, je passe pour quelqu'un d'assez froid, un peu en retrait, et je ne vais pas dire que tout se passe un peu dans ce mystère qui est né donc de cette enfance, d'une famille très nouée, avec des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. On se retrouvait, je vous disais, donc dans cette maison, puisque donc les parents avaient également des maisons à Braisnes, et je me souviens de grandes vacances où il y avait une tornade. Et un arbre énorme était tombé, et nous avons passé toutes les vacances, c'était ce qu'on appelait les grandes vacances, à jouer dans cet arbre, qui était devenu un monde. On faisait des cabanes dans l'arbre, on grimpait. Nous étions un petit peu en dehors du temps, des réalités.
Oui, mais enfin, ça vous permettait peut-être d'aller plus près des vérités les plus profondes, quoi.
Oui, alors je suis un amoureux de la nature, un amoureux du voyage. J'ai beaucoup voyagé.
Oui, même vous êtes un explorateur.
Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire. Mais j'ai beaucoup voyagé, entre autres il y a une quarantaine d'années. Nous sommes allés dans l'Himalaya. Je suis allé à la frontière.
Quelqu'un m'a dit que vous étiez allé dans 82 ou 83 pays.
Ça fait même plus d'une centaine.
C'est
maintenant.
Ça, maintenant
oui. Et alors des îles complètement, j'allais dire, du bout du monde, Clipperton, l'île de Monneron.
Y a-t-il un endroit au monde qui vous a appris plus de choses sur vous-même que les autres ? Enfin, vous dites, tiens, là, vous vous êtes découvert vous-même.
Alors, c'est un peu, peut-être facile, avouer cela, c'est la mer, la mer et le désert. J'ai fait, donc, il y a de cela maintenant une quinzaine d'années, j'ai voulu aller au Tassili des Algères, voir donc les peintures rupestres, et le désert m'a beaucoup apporté. J'aime par exemple énormément l'Ouest américain. J'aime les régions désertiques où on se sent, j'allais dire, dans une dimension très modeste face à une nature qui est dans toute sa vérité et toute sa splendeur. Le Chili, par exemple, la cordillère des Andes, l'Himalaya. Je me souviens, lorsque j'ai vu l'Himalaya, nous étions partis à pied de l'Inde jusqu'à la frontière du Tibet, et d'un seul coup, sur 300 kilomètres, nous avions l'Himalaya face à nous.
Mais vous aimez vous sentir tout petit à l'échelle du monde ?
C'est un frisson qui n'est pas désagréable, que j'aime bien, oui.
Mais vous parliez des déserts et de la mer, vous êtes peintre officiel de la marine depuis, je crois, 1981, ou quelque chose comme ça.
Maintenant, il y a plus de 30 ans,
C'est ça. Est-ce qu'il y a une mer au monde qui vous touche plus que d'autres mers ? Parce que la mer, c'est comme les femmes.
Oui. Alors, moi, je vais vous faire un aveu. Ce qui me frappe le plus dans les mers, ce sont les mers froides.
Ah oui.
Oui, oui. Ce ne sont pas les mers, j'allais dire, comme l'océan Pacifique, l'océan Indien. Non, c'est la mer du Nord. Là, dernièrement, je suis allé au Cap Nord en faisant donc toutes les escales le long de la côte de Norvège. Je suis toujours très, très séduit. Je me souviens qu'une de mes plus grandes tempêtes était au mois de décembre dans l'Atlantique Nord. Et nous avions des creux de 11 mètres, c'est-à-dire 11 mètres d'eau.
Oui.
C'est très impressionnant.
Ça, c'est du force douce.
Exactement. Et alors que, j'allais dire, le Pacifique, où je suis allé souvent, que ce soit le Nord ou le Sud, n'est pas pacifique dans le sens où on l'entend, mais ne me parle pas du tout de la même façon.
Mais vous vous sentez bien lorsque ça bouge comme ça, lorsqu'on a l'impression
d'être
au creux d'un volcan.
Dépasser, oui, j'adore les volcans. Quand je sais qu'il y a un volcan, immédiatement je carapate pour aller voir.
Vous avez au fond une liaison épidermique avec la nature.
Oui. Je suis un homme de la campagne, j'en suis très fier, excusez-moi, c'est idiot de dire cela, mais j'aime la campagne.
Et vous faites un rapport, vous parliez des déserts, vous faites un rapport entre le désert et la femme, entre le corps d'une femme et le désert, lorsque vous voyez une dune ou...
Je vais vous faire un aveu, bon, effectivement, il y a la part charnelle qui existe dans la contemplation d'une femme, sinon ce n'est pas la peine de peindre des femmes. Bon, mais c'est la proposition de ce mystère que j'envie et que j'apprécie chez la femme. En fin de compte, chez moi, tout est un peu axé sur le mystère. J'aime les gens mystérieux, j'aime les personnes qui ne se révèlent pas. J'aime les personnages que je décrypte petit à petit, que je découvre.
Et vous trouvez dans la féminité plus de mystère que dans...
Les femmes sont bien, bien supérieures aux hommes. Dans ce domaine, ce sont les reines. Les femmes savent entretenir, savent provoquer cela. Et... C'est pourquoi, bon, je sais que beaucoup d'épouses sont généralement jalouses des modèles, bon, par le fait qu'il y a forcément, lorsque vous peignez une femme, et en plus lorsqu'elle est nue, bon, il y a une émotion qui se passe et qui est tout à fait unique. C'est extraordinaire, il y a quelque chose de pur et en même temps de, je ne vais pas dire de malsain, de fabriqué. Il y a tout un monde, tout ce que l'on met autour de cela.
Mais est-ce que vous avez connu des modèles qui se rendaient compte de cela, de ce que vous ressentiez, de cette perception-là de mystère, d'intimité, de gravité, de supériorité? Vous avez connu des modèles qui se rendaient compte de cela?
Alors je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais pris de modèle professionnel. Je suis contre le modèle professionnel et je pense que pas mal d'artistes également.
Donc c'est encore plus impliquant pour la femme.
Alors justement, vous allez me dire, vous êtes un petit peu scabreux dans vos vision, mais c'est justement cela qui est merveilleux. C'est cette rencontre entre deux personnalités, cette intimité, parce que bon, il faut reconnaître que la nudité maintenant, bon, est assez courante.
Mais celle-là est particulière quand même.
Celle-ci est quand même très particulière.
Très particulière, oui. Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Arnaud Dautrive, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos, avec la part de jeu que ça implique, hein, si vous aviez une idée à faire ressortir sur votre regard sur le monde et sur la société? Il y a une chose que vous aimeriez dire.
Ce qui m'étonne toujours, c'est l'importance que représente pour moi la créativité en matière donc artistique, qui est une chose extraordinaire et qui est en fin de compte la moins bien comprise par la majorité des gens. En fin de compte, vous voyez, l'art en fin de compte est primordial dans la vie, donc au quotidien, et on s'aperçoit que cet art est souvent bafoué et ne représente pas exactement, n'occupe pas la place, à mon avis, qu'elle devrait donc avoir. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que ce soit dans une catégorie de gens relativement pauvres, peu aisés, la première chose qu'ils souhaitent, c'est embellir leur maison en achetant un abominable chromo qu'ils vont accrocher. Donc, c'est un besoin chez les êtres d'avoir ce contact, ce rapport avec l'œuvre d'art, donc avec un tableau, une sculpture, bon. Et en fin de compte, faire si peu cas par la suite de cet état. Je ne sais pas si je le définis bien, mais en fin de compte, les artistes sont admirés et en même temps méprisés et peu pris au sérieux.
Parce qu'ils nous remettent aussi en cause quelque part.
Oui, mais l'art, à mon avis, est prépondérant. S'il n'y avait pas d'art, bon, je me demande à quoi nous servirions en quelque sorte. Mais l'art n'est pas compris, n'est pas placé. On le voit, donc on dit « oh bon, c'est un artiste ».
Oui.
Bon, alors, qu'un artiste, bon, ça peut aller effectivement de Michel-Ange ou du Bernin, bon, au pire Croutard. Et on ne mesure pas ce que cela représente.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une question d'éducation, c'est une question de...
Alors, je pense que l'éducation, effectivement, est un facteur important. Bon, mais vous avez des personnages qui, spontanément, par exemple, moi, je suis un admirateur et un amoureux, donc, des arts premiers. C'est, je dirais même, une des raisons qui m'a porté vers le voyage et vers l'évasion. Mmh. Et j'ai acheté à l'époque mon premier masque lorsque j'étais balayeur au BHV. Donc,
Vous étiez un pionnier à l'époque.
Oui, il y a de ça maintenant plus de 60 ans. Mmh. Bon, je l'ai toujours gardé et j'ai emporté mon premier masque à Rome et à Madrid. Mmh. C'était donc un besoin. Eh bien, quand on voit, c'est ça, devant que je suis en admiration, c'est de voir que ces populations primitives, que ce soit la Nouvelle-Guinée, que ce soit donc l'Amérique, que ce soit l'Afrique, ont apporté des créations tout à fait extraordinaires, sans qu'il n'y ait de référence à quelque chose ou à une expression qui existait antérieurement ou à leur époque. Quand on pense, j'allais dire, à la créativité qui était celle des Incas ou des Aztèques ou de Nouvelle-Guinée, tous ces personnages ont créé, et c'est vraiment une sorte de génération spontanée, avec en même temps une parfaite authenticité. Actuellement, nous sommes un peu les récupérateurs de tout ce qui a été fait antérieurement. Nous avons perdu un peu, en quelque sorte, non pas notre âme, mais nous ne sommes pas vierges.
Mais quand vous parlez de Nouvelle-Guinée, lorsqu'on regarde certaines peintures rupestres des grottes de l'Ariège, il y a 15 000 ans, c'est les taureaux.
Je trouve ça extraordinaire. Je me souviens d'avoir visité Lascaux, donc il y a à l'époque où Lascaux était fermé, mais j'avais eu donc le privilège de pouvoir visiter Lascaux. Et c'était avec un groupe de personnes du Musée de l'Homme. Et à la fin, sachant que j'étais peintre, on leur a dit « Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir, j'allais dire, ces peintures, en même temps monumentales, disons-le, parce que la taille est tout de même très importante ?» Et j'ai répondu « Écoutez, tout est déjà dit. Tout est déjà dit à Lascaux. Tout ce qui va venir après, eh bien, le sens du monumental, j'allais dire la rigueur au niveau des couleurs, la limitation des couleurs, le dessin, le sens de l'observation, le caractère monumental, l'utilisation de la surface pour accentuer la pensée, tout ça, toute l'intelligence qui, en principe, devrait primer donc dans la créativité, eh bien, se trouvait être exprimée donc à Lascaux.
Et tout ça de façon totalement authentique.
Absolument. Ouais. Et alors, cette trouvaille, je me souviens d'un cheval. Et alors, pour les pattes antérieures, laissant un léger blanc, ce qui donnait une perspective. Alors, ceci était déjà donc une vision extrêmement pertinente et bien établi. Donc, ils avaient vu cela. Et on découvre à cette époque-là que les chasseurs connaissaient davantage les animaux qu'ils chassaient qu'ils ne connaissaient leurs compagnes. Puisque, vous le savez, les deux expressions, ce sont les animaux et les parties sexuelles, donc les femmes. Ça se limitait à ça. Et ils connaissaient parfaitement les animaux. On sentait qu'ils étaient là, ils avaient tout repéré dans l'animal. Et c'est ça que je trouve formidable.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Arnaud Dautrive, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Vous avez le choix.
Je dirais que basé sur le mensonge.
Oui, mais lequel? Lequel vous touche le plus?
Justement, dans un domaine qui est donc celui que je connais un petit peu mieux que les autres, dans la création. Justement, nous parlions là des primitifs. Là, il y a une authenticité qui me plaît beaucoup, même si ce sont des choses qui parfois me surprennent. Il y a de l'inattendu, il y a des choses très fortes qui sont venues. Alors que là, nous vivons une époque de tricherie. Je ne dirais pas que je n'aime pas mon époque. L'époque est certainement passionnante. Et puis, je n'en connais qu'une parcelle. Mais il y a une sorte de malhonnêteté, j'allais dire, intellectuelle.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la place de l'argent.
La place de l'argent, le désir d'être, j'allais dire, reconnu. Regardez, je n'en veux absolument pas, nous avons besoin d'eux également, mais également les médias, tout ce qui tourne autour de cela, la falsification, le besoin, je vous dis, de paraître, tout ça me déçoit énormément.
Prenons un exemple, je vous dis cela j'allais dire à vue de nez, mais je n'ai pas le document sous les yeux, mais j'ai en tête les 10 tableaux qui ont été vendus, les sommes les plus fortes des 10 dernières années. Il y a un Renoir, il y a un Cézanne, il y a un Van Gogh, il y a 3 Picasso, il y a un Klimt, il y a un William de Koninck, il y a un Pollock. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas avoir chez vous dans tout cela?
Vous m'auriez demandé quel est celui que vous aimeriez avoir.
Je n'aurais pas trop de mal à trouver.
Alors, je vous pose la question. Alors, Quel est celui qui m'intéresserait ?
Sur les 10 que oui. Je vous ai cités, là ? Ah, j'ai oublié, chose exceptionnelle, il y a une sculpture de Giacometti.
Voilà, alors, je vous dis tout de suite, et sans aucun regret, c'est le Klimt.
C'est le Klimt ?
Je suis très, j'allais dire, très proche, j'allais dire, dans son esprit. Je trouve que Klimt est un très, très grand artiste. Et je ne dirais pas d'ailleurs que j'aurais l'outrecuidance de prétendre avoir la même vision que lui. Et je sens, j'ai le sentiment de sentir la façon dont Klimt ressentait la peinture face à...
Oui. C'est une peinture très élaborée. Hein.
Oui, mais...
Une technique exceptionnelle. Enfin, c'est pas...
Il y a une technique. Et puis là, il y a également cette... Bon, c'est un terme qui est galvaudé. Bon, je ne vais pas dire... Une sensorialité, un érotisme, oui. Mais qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas bon, il n'est pas indispensable de mettre les modèles dans des positions équivoques pour que cela accroche, comme on dirait vulgairement. Il y a quelque chose, une dimension que j'aime énormément.
La femme est sur un piédestal. Là.
Non, ça, c'est un très, très, très bel art. Attention, ce que vous avez cité, la plupart sont des artistes que j'accepte. Bon, c'est un petit peu, par exemple, bon, même en musique, on me demande quel est votre compositeur. Bon, c'est Mozart, c'est un peu facile. Monteverdi, et on me dit, mais il y a Bach. Oui, Bach, mais Bach n'est pas mon compositeur, alors que je sais qu'il est de bon ton de s'extasier donc, sur l'œuvre de Bach, qui mérite forcément, qui est un compositeur extraordinaire, mais je suis beaucoup plus proche de Monteverdi, Mozart. Oui. Et puis, j'aime beaucoup ce compositeur qui est Schubert. Schubert est un...
Mais lequel ? Parce qu'il y a tellement de Schubert. Celui des symphonies, celui des quatuors, celui
des... Des leaders.
Des leaders.
Oui, j'aime beaucoup.
C'est la gravité très profonde.
Oui, oui, oui.
Vous vous souvenez de l'un d'entre eux, par exemple ? Un leader de Schubert que vous aimez particulièrement ?
Alors, je vais vous faire un aveu. Du moins, ce n'est pas un leader, mais c'est donc une pièce musicale que j'aime énormément. D'ailleurs, j'en ai fait un grand tableau à l'époque, à mon retour de Rome, qui s'intitule « La jeune fille et la mort ».
Ah oui, exactement. Ben oui, là, vous n'avez pas choisi le pire.
Oui, hein. Oui, oui. Alors, ça, c'est une œuvre. Alors, j'aime beaucoup l'opéra de Mozart. Bon.
Donc, vous croyez aux...
Je n'ai pas de...
Vous croyez aux corrélations entre la peinture, la musique ? Vous croyez à ce lien entre les dimensions artistiques ?
J'en suis convaincu.
En tous les cas, vous avez associé la poésie à la peinture, puisque vous avez... Ouf. Illustrer de façon superbe les paradis artificiels de Baudelaire. Mais est-ce que le fait, par exemple, de faire des dessins sur l'œuvre de Baudelaire vous permet de mieux le comprendre ? Est-ce qu'il y a une proximité plus forte à ce moment-là ? Non ?
Mieux comprendre, je n'irai pas jusque-là, mais une sorte d'osmose qui se fait, il y a une sorte de complément qui s'établit. Non, j'ai toujours beaucoup aimé Baudelaire, et d'ailleurs c'est un des poètes auxquels on se réfère quand on parle de ma peinture. C'est Baudelaire, c'est Mallarmé, bon, c'est ce monde... En fin de compte, je suis un symboliste. C'est-à-dire que les symbolistes sont condamnés par certains par le fait qu'ils sont beaucoup plus... Donc, c'est une peinture un petit peu d'érudit, mais j'aime beaucoup la peinture symboliste.
Et en plus, chez
j'aime
Baudelaire,
beaucoup
là.
Des gens comme Bunch, oui, Schoenberg, j'aime beaucoup.
Part de mystère chez Baudelaire, quand même.
Oui.
Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité,
sans
livre de soleil, c'est... Si on trouve
plus
beau.
Oui. J'aime beaucoup cette frange. J'aime beaucoup Redon.
Oui.
Vous voyez la part de mystère.
Et là, c'est toujours le mystère, mais associé à la gravité, parce que Redon.
Oui, bien sûr.
Là, c'est toujours cela.
Mais il y a eu le Munch dans les tableaux qui ont acquis.
Le cri.
Le cri, oui.
Le cri, oui.
Oui, oui.
Ces derniers mois, c'est celui qui a atteint absolument. Les sommes les plus astronomiques. Mais enfin, ça n'est pas encore le joueur de cartes de Cézanne et les 190 millions d'euros, quand même. Ça ne vous paraît pas un peu démesuré, ça ?
Alors, ça, je trouve cela donc. C'est indécent.
Ah, bon, d'autant qu'il y avait 5 versions des joueurs de cartes à la fin des comptes.
Ah, absolument. 190. Mais comme d'ailleurs le cri, qui existe à 4 exemplaires.
Oui, c'est ça. Oui. Mais sans faire de procès personnel,
non.
Vous pensez que les gens qui mettent ces sommes-là dans ces œuvres-là pensent une seule seconde à la valeur artistique de l'œuvre ou au placement ?
Il y en a certains qui se moquent complètement. Je pense qu'il y a eu de grands collectionneurs qui se moquaient effectivement et qui n'aspiraient pas à ce que l'œuvre même prenne une dimension, vous ne pensez pas. Mm-hmm. Et à côté de ça, bon, vous en avez qui sont des traficoteurs qui ne pensent qu'à ça.
Ils croient.
Alors, je vais vous dire une chose, lorsqu'ils se ramassent, eh bien, ils l'ont cherché.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Je ne suis pas du tout un scientifique, mais je pense que c'est la science. La science, surtout dans le domaine médical. Quand je vois ce qui est devenu, bon, ça fait presque 30 ans que je suis dans cette maison, que j'ai vu l'évolution, j'allais dire, des prix décernés par notre maison, par l'Institut. Au départ, bon, c'était des prix littéraires, il y avait des prix artistiques, qui existent encore, mais de plus en plus, c'est la recherche. Les grands prix sont attribués à des chercheurs. Et j'ai énormément d'estime pour ces gens qui ont fait des découvertes, souvent dans des laboratoires quasi minables par rapport à ceux que l'on voit donc à l'étranger. Et ces gens qui croient et qui ont, j'allais dire, cet amour de l'être humain et qui voient cela avec lucidité, une sincérité, moi personnellement, qui me laisse pantois. Parce que ça, je ne le ressens pas, à part chez quelques artistes que je considère comme étant profondément sincères, n'existe pas effectivement chez beaucoup d'artistes.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que les deux précédents invités de cette série, Nicolas Grimal et Amine Malouf, ont répondu la même chose que vous, la science.
Donc, moi, c'est ce qui me frappe et qui m'attache à cette maison. Et je vous dis, ça a complètement changé. Avant, c'était donc des prix de peinture. Il y en a encore, mais je m'aperçois que maintenant, le prix Bettencourt, tous les grands prix vont à la science. Je me rends chaque fois pour écouter la remise des prix, que ce soit avec les prix Yves Rocher, qui récompensent des femmes qui ont comme ça des idées donc, scientifiques ou qui se rendent à l'étranger pour aider. Je trouve ça merveilleux. Là, on touche, j'ai une sensibilité, une vérité.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Arnaud Dautrive, le plus grand échec de votre vie? Et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter?
Je vais être peut-être un peu dur. Une chose qui peut être la plus belle des réussites, et lorsque ça n'est pas réussi, c'est quelque chose d'effroyablement tragique, c'est en fin de compte le mariage.
Oui.
Je n'ai jamais divorcé pour des raisons, bon, j'allais dire personnelles et religieuses, mais je considère que le mariage est quelque chose de terrible.
Vous voulez dire quand il n'y a plus d'amour, quand c'est...
Si, l'amour, mais où il n'y a plus, j'allais dire, cette étincelle. Je trouve ça terrible, quand tout devient après quelque chose de monotone, de répétitif, de...
Une espèce de prison.
Oui. Ouais. Là, bon, j'ai perdu mon épouse les mois derniers, mais nous étions séparés. Nous avions encore des relations, nous nous retrouvions, mais n'avons jamais voulu, donc, j'allais dire, divorcer. On va dire, c'est peut-être par lâcheté ou pour tout ce que l'on veut, mais le mariage est pour moi quelque chose de terrible.
Mais d'une façon générale, ou vous avez l'impression que vous avez été une exception?
Si c'est une réussite, c'est extraordinaire.
Et vous en avez connu beaucoup de grandes réussites autour de vous, de mariages parfaitement réussis?
Oui, j'ai connu par mes parents. C'est extraordinaire. Dans ma famille, donc... jamais on n'aurait pu entrevoir, j'allais dire, le fait que l'on puisse même divorcer ou être séparé. Je découvre donc des couples comme ma sœur également. C'était des couples très très proches. Elle était très proche de son mari. Mais je vois tellement d'échecs. Et ça, je trouve ça terrible.
Mais est-ce que, concernant vos parents, est-ce que ce n'est pas une reconstitution d'enfant? Vous avez la certitude que
je comprends.
Couple,
oui.
Vous avez la certitude que c'était vraiment un grand couple?
Je pense que c'était un grand couple. Bon, vous me direz, je suis issu d'une famille qui était très croyante. Bon, alors, peut-être que la religion, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais, donc, entendu ou vu mes parents se disputer ou avoir un mot.
Jamais.
Jamais.
Comment attribuez-vous cette espèce d'osmose alors entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle, ça. Comment vous expliquez ce miracle, cette entente si exceptionnelle?
Eh bien, il n'y avait pas de sentiment ou de désir, j'allais dire, tant chez l'un que l'autre, d'imposer ou de croire qu'il était supérieur donc à l'autre. C'était une rencontre, et à eux deux, et modestement, car en fin de compte, nous n'étions pas du tout d'un milieu, j'allais dire, mondain, ou dans la simplicité. Et c'est là où j'ai découvert combien la simplicité, c'est certainement la plus belle des qualités.
Et au fond, c'est...
Vous savez, mon père nous enseignait toujours, je crois que c'était de Florian, « Ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce, jamais lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. » Être soi-même.
Très beau, ça. C'est très, très beau.
Oui.
Au fond, cet exemple-là a marqué votre vie. Enfin, à la limite, c'est le creuset le plus important de votre vie.
En fin de compte, je m'aperçois que...
Tout par-delà.
Oui. Il y a des quantités comme ça de références et que je retrouve avec l'âge, avec mon frère Landry. quand nous étions enfants, bon, nous étions deux garçons généralement un peu opposés. Et avec l'âge, nous redécouvrons, j'allais dire, cette affection et cette compréhension entre nous deux.
Vous imaginez ce que ce serait pour vos parents d'entendre ça? C'est le plus bel hommage qu'on puisse leur faire. C'est formidable, ça. Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, Arnaud Dautry, votre motivation essentielle dans la vie?
C'est d'avoir ou de donner le sentiment que je suis sincère avec moi-même. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en parfaite sincérité et en même temps, non pas par devoir, parce que bon, le devoir c'est une chose bon, dont on a besoin, dont il est indispensable de s'étayer, mais c'est en fin de compte, j'allais dire, de se réaliser, non pas vis-à-vis de soi-même, mais pour les autres. Et c'est là où je m'aperçois que, au début, bon, j'avais envisagé, quand j'étais chez les jésuites, parce que c'était en fin de compte un peu dans les habitudes des jésuites, de former leurs futurs oies. Donc, et là, je dois dire que mon père m'a sauvé en quelque sorte, car le père recteur, donc des jésuites, convoque mon père et lui dit, vous savez, monsieur Dautry, je tiens à vous dire, je suis à peu près convaincu que Arnaud, donc à la fois, il serait peut-être bon de le diriger. Et alors mon père est parti d'un éclat de rire. Il dit, mon père, écoutez, je connais mon fils, il n'a absolument pas la vocation. Et voilà comment, en quelque sorte, je ne dirais pas dire, j'ai échappé, le terme est peut-être un peu vulgaire, mais à ce genre de choses. Mais là, vous me posez une question.
Mais prenons un autre exemple dans le sens que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire cette perception d'une responsabilité par rapport à d'autres. Je disais en commençant cette émission, vous êtes depuis près de 16 ans secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, je suis le doyen maintenant.
C'est une mission pour vous.
Ah oui.
Bon.
Oui.
Est-ce que cette mission, vous avez l'impression qu'elle vous a apporté beaucoup de choses et qu'elle vous laisse du bonheur à faire autre chose?
Elle me laisse du bonheur et en même temps, vous ne pouvez pas savoir, le perpétuel, en fin de compte, qui est la mémoire de l'Académie, est en quelque sorte, j'allais dire, le confesseur. J'en ai tellement appris, j'en ai tellement vu. Souvent, on me dit, mais tu devrais écrire. J'allais dire, non, je ne pourrais pas. Mais en 29 ans, ce que j'ai découvert dans cette maison, j'ai eu des moments d'exaltation, de plaisir. J'ai des confrères que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Et d'autres que j'ai découverts qui m'ont déçu à un degré. Et je me dis, c'est pas possible qu'ils aient ces aspirations. Quel est le but? Nous avons la chance d'être dans un endroit tout à fait exceptionnel.
À tout point de vue.
À tout point de vue.
La beauté.
Ça, je le dis, les personnages de qualité que je connais dans cette maison sont extraordinaires.
Oui, mais ça, c'est un des aspects des choses. Mais est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas sacrifié une partie de votre vie, une partie de votre carrière en étant secrétaire perpétuel?
Si, j'estime que j'ai sacrifié ma vie.
C'est terrible pour un artiste. C'est terrible pour un artiste de sacrifier sa création.
C'est pourquoi je vous dis, pour moi, c'est une sorte...
Mais Dieu vous le pardonnera pas, ça.
Un peu de sacerdoce.
Oui,
on me dit, mais maintenant...
Un sacerdoce.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'au départ, parce que vous savez que l'on ne pose pas sa candidature, c'est donc votre section, du moins votre académie, qui vous propose à devenir donc perpétuel. Je ne pensais pas que cette tâche me dévorerait à ce point, au point d'annihiler tout esprit de créativité.
Mais vous ne le regrettez pas aujourd'hui?
Je ne le regrette pas, mais parfois lorsque je me lève le matin, la première chose à laquelle je songe, c'est à l'académie. Quand je me couche le soir, je pense encore à l'académie.
Oui, et le peintre Arnaud Dautry là-dedans?
C'est une autre époque, c'est un autre... C'est là où, par un moment, je me dis, est-ce que tu as fait le bon choix? Alors c'est pourquoi je vous dis, cette sorte de sacerdoce, je le fais parce que je crois dans la maison. Et c'est mon devoir d'être le témoin pour cette maison et ne serait-ce que pour ma modeste académie.
C'est drôle d'entendre un artiste parler de devoir comme ça.
Oui.
Étonnant.
Je le dis, c'est un devoir.
Dernière question, puisque le temps passe. Quel est le tableau ou le dessin ou la sculpture que vous aimeriez revoir avant de mourir? Récemment, Pierre Rosenberg nous a dit le déluge de Poussin. Vous-même, ce serait quoi?
Alors, je vais vous faire un aveu. C'est un tableau qui me bouleverse, qui est très très beau, qui se trouve à Amsterdam. C'est un tableau de Rembrandt et ça s'intitule « La fiancée juive ». Alors, c'est donc le fiancé qui est juif, qui est une sorte de houppelan, d'une sorte de serpillière, qui a la tête sur la jeune femme, qui est donc son épouse, et il a la main. Et c'est extraordinaire, le sentiment qui émane de ce tableau.
Et l'amour, c'est...
Ça s'appelait la fiancée juive.
Ouais, ouais.
C'est un tableau extrêmement émouvant. Alors, il y a des tableaux, effectivement, également de Zurbarán, que j'aime beaucoup, de Velázquez. Mais au niveau du sentiment de ce qui est dit dans ce tableau de Rembrandt, c'est quelque chose qui me bouleverse.
Ainsi s'achève cet essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui le peintre Arnaud d'Autry.
Et Klimt, forcément.
Klimt aussi.
Oui.
Lequel de Klimt ?
Il y en a beaucoup.
La belle-sœur ?
Oui, celle qui vient d'être d'ailleurs récupérée.
Oui, il y a trois exemplaires.
Oui, oui, absolument.
C'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer.
Voilà, voilà. Donc, oui, ça, c'est une très belle...
Très, très belle,
très belle œuvre. Oui.
Très, très beau tableau. Donc, ainsi s'achève cet essentiel consacré à Arnaud d'Autry, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Arnaud d'Autry, merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Vous êtes très aimable, merci.